Vous écoutez L'Entrée des coulisses, le podcast produit par la compagnie La Danse des Mots. Vous allez découvrir ce qui ne se voit pas sur scène et entendre des artistes talentueux vous entraîner dans leur univers inspirant. Médiatrice culturelle, dirigeante d'une troupe de théâtre, je pose mon regard sur le monde artistique et sur celles et ceux qui le font vivre. Je suis Isabelle S. et je serai votre guide dans les coulisses. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous retrouver et de résonner au creux de vos oreilles, quoi que vous fassiez en ce moment. Allez, sans transition aucune, le programme. Derrière la première porte des coulisses. Figurez-vous que fin 2022, nous avons lancé un appel aux artistes pour qu'ils viennent parler à notre micro de leur projet en 2023. La compagnie des Renards Volants a répondu à cet appel et c'est Océane Pivoteau que vous allez entendre. Elle va vous présenter les projets très originaux de ces Renards Volants, avec notamment un voyage en Guyane, mais en restant en France. Restez avec nous, vous allez comprendre. Poussons la deuxième porte des coulisses, passons derrière le rideau. Derrière le rideau, c'est un nom qui n'est pas sans évoquer la terrible vague MeToo et ses terribles révélations. C'est aussi le nom d'un podcast et d'une association. Mélodie Molinaro, comédienne et chanteuse, notamment au sein du trio vocal Les Coquettes, Mélodie Molinaro sera à notre micro pour vous parler de son initiative « Derrière le rideau » qui vise à libérer la parole des victimes dans le spectacle vivant. Et pour finir sur une note très différente, derrière la dernière porte des coulisses, Marion Lorguet, Marion de Théâtre en mille et un lieux, nous fera découvrir Agatha Christie en mode auteur de pièces de théâtre. Allez-y, en coulisses. Ouvrons donc la première porte des coulisses et partons à la découverte des Renards Volants, un collectif qui propose des créations au-delà du théâtre, spectacles, chaîne YouTube de pubs parodiques et festivals autour de la Guyane. Et pour vous parler de tout ça, j'ai reçu au micro de l'entrée des coulisses Océane Pivoteau, Océane qui avait répondu à notre appel à artistes l'année dernière. Et oui, déjà.
Et je voulais savoir, oui, la compagnie, vous êtes basée où, du coup ?
Ah oui, bah oui. Nous, on est en région parisienne. On est à Antony, c'est la banlieue sud de Paris.
Ben bonjour, je m'appelle Océane et je fais partie du collectif Les Renards Volants.
Océane, bah bienvenue dans le podcast L'Entrée des coulisses. Vous avez donc répondu à notre appel à artistes sur nos réseaux sociaux. Et donc, du coup, bah vous voilà à notre micro. Alors, moi, déjà, une toute première question. Moi, j'ai trouvé le nom de votre collectif assez amusant, les Renards Volants. Et pourquoi donc les Renards Volants ?
Oui, c'est une grande histoire. Mais on cherchait avant tout un nom assez sympathique et qui se retienne bien. Voilà, et on voulait associer un nom d'animal avec un adjectif. Et en fait, on a trouvé que le renard était un animal qui en fait symbolise l'adaptabilité, voilà, qui s'adapte à toute situation. Et c'était, ça nous allait plutôt bien parce que on bouge dans beaucoup d'endroits, on est obligé de s'adapter en faisant du théâtre en dehors des lieux de théâtre. Mmh. Et puis volant, bah, par le fait effectivement que bah, on bouge beaucoup, donc voilà, c'était un nom qui nous allait bien et les gens le retiennent généralement.
Ah oui, ça je confirme. Alors, j'ai lu que vous êtes un collectif, non pas une compagnie, une troupe, mais un collectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, on ne s'est pas donné le nom de compagnie, effectivement, parce qu'on ne fait pas que du théâtre. Mmh. On a aussi un aspect image, donc on fait de la vidéo et de la photographie.
D'accord, ok. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Très bien. Donc, il y a un noyau dans ce collectif et puis ce qu'on va appeler des électrons libres. Comment vous vous êtes connus ? Comment ça s'agrège comme ça autour de vous ?
Ben, généralement, c'est des gens qu'on rencontre sur d'autres projets, en fait, où on travaille avec d'autres artistes et puis on les invite sur nos projets, d'abord une fois, puis deux fois. Et puis,
d'accord.
Et puis après, c'est des collaborations qui se font un peu sur le long terme avec des gens qu'on aime bien aussi. C'est surtout des amis au départ.
Ok. Et donc, le petit noyau central, c'est qui alors, du coup ?
Donc, le petit noyau central, c'est moi avec Mathieu, de la cour. Voilà, qui lui est plus du côté, en fait, de l'image. Donc, c'est lui le photographe réalisateur.
Ouais.
Et moi, je suis plus du côté du théâtre. Donc, c'est pour ça qu'on s'accorde tous les deux là-dessus.
Très bien. J'ai noté que vous faisiez effectivement des spectacles, des ateliers, de la vidéo, on va y revenir. Une initiative assez originale, je trouve, un festival. Je n'en dis pas plus pour le moment. Pour l'instant, sur les spectacles, vous écrivez vos spectacles ?
Alors, les spectacles jeunes publics, oui. En fait, on commence dans le principe. Je commence sur une histoire. J'écris un texte, la base du texte. Et puis après, avec les comédiens avec lesquels on travaille, on reprend ça au plateau. Et on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Et on l'agrémente, en fait. Et ça devient vraiment un travail collectif. Et pour les spectacles, on va dire plus tout public, j'aime beaucoup prendre des textes, en fait, qui existent déjà et les modifier à ma façon pour en donner quelque chose de nouveau, une nouvelle vision.
D'accord. C'est certainement ce que vous avez fait sur le spectacle qui s'appelle Homme debout, boue comme de la boue, B-O-U-E. Si j'ai bien compris, c'est donc un spectacle qui se base sur des lettres de Poilu, c'est ça, la guerre 14-18. Et j'ai l'impression que ça mixe une performance seule en scène et des projections. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est un seul en scène où on suit la traversée d'un poilu pendant toute cette guerre. Et l'idée était, en fait, d'utiliser plein de lettres de poilu pour que ça représente, en fait, leur voix à tous et que ce soit le poilu en général. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom dans la pièce.
D'accord.
C'est vraiment un poilu, il est anonyme. Et donc, c'est ce travail-là et qui est fait ensuite parce qu'on ne voulait pas faire une reconstitution. Donc, le principe était d'utiliser ces anciennes paroles qui sont souvent des mots assez compliqués à comprendre aujourd'hui parce qu'il y a de l'argot, il y a vraiment le langage d'il y a un siècle.
Oui.
Et c'était de le mettre avec une mise en scène qui était plutôt sur de la modernité pour que ça nous accroche vraiment aujourd'hui et qu'on puisse se dire, mais en fait, ça aurait pu être écrit n'importe quand et ça peut arriver n'importe quand. C'était le principe.
D'accord. Donc, sur ce spectacle-là, en fait, il y a plein d'aspects. Il y a donc un aspect historique. Je suppose que vous avez dû faire des recherches. C'est ça ? Vous avez fouillé ?
C'était vraiment... Alors, on s'est plus attaché vraiment à ce que disaient les poilus.
D'accord.
Plus que, après l'histoire qu'on connaît tous, dans les grandes lignes qu'on a appris à l'école. Mais l'idée, c'était vraiment de travailler sur leurs pensées à eux et ce qu'ils ont ressenti en dehors de la politique et de vraiment des stratégies de guerre, etc.
Oui, vous étiez plus sur l'émotionnel, quoi, hein, sur l'humain,
vraiment.
Comment vous avez donc travaillé ce spectacle ? Parce que je crois que vous êtes seule en scène, hein, du coup.
Alors, c'est un spectacle que je joue en alternance avec un comédien homme.
Oui, voilà. C'est intéressant.
Et notre principe
ça.
Est que les gens ne savent jamais qui ils viennent voir.
C'est génial.
Voilà, c'est le principe.
C'est super.
Mais c'est vraiment... L'idée est vraiment en fait de se dire que c'est pas très important de venir. On vient pas voir une personne jouer.
Oui.
On vient entendre ce texte et on vient le ressentir et ça peut être dit entre guillemets par n'importe qui parce que vraiment ce qui importe c'est cette parole et d'être emmené dans un voyage émotionnel.
Mmh. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est ça que je trouve intéressant du coup parce que ce soit joué et par un homme et par une femme. En fait, ce sont les textes qui priment, ce n'est pas le soldat, un soldat, oui, comme vous disiez, qui n'est pas nommé d'ailleurs. Et comment s'intercalent les projections, du coup, dans le spectacle ?
Alors, les projections, c'est vraiment comme un autre personnage.
D'accord.
Qui est sur scène et qui va jouer avec les pensées de ce poilu, qui va lui montrer parfois des choses qu'il n'a pas envie de voir, qu'il essaye d'occulter et qu'il nous dit différemment. Mais la projection est toujours là pour lui rappeler et parfois pour vraiment le chercher. C'est comme un autre personnage qui vient le chercher à certains moments, qui vient lui montrer des choses qu'il n'a pas envie de voir, qui vient aussi le remettre dans son contexte, qui le ramène toujours à cette guerre. Et voilà. Et c'est toute la pièce, au final, il joue avec cet autre comédien qui est juste de la vidéo, en fait.
D'accord. Comment vous l'avez travaillé, ça ? Les vidéos, vous les avez tournées bien en amont ? Vous les avez tournées en même temps que les répétitions des textes ? Comment ça s'est fait ?
Alors, ça s'est fait en deux temps, en fait, parce qu'on a eu une première période où on avait le texte, on connaissait la mise en scène, et du coup, on a tourné les vidéos pour pouvoir commencer à répéter avec.
Oui.
Et puis, donc, les vidéos ont été là pendant un certain temps, et on a refait les vidéos là dernièrement, parce qu'après l'avoir joué plusieurs années, on avait besoin de les actualiser et de les rendre plus sur notre propos, en fait.
Oui.
Et donc on les a refaites très récemment, avec en tête toute la mise en scène. Et puis le comédien, parce que c'était un nouveau comédien qui arrivait aussi, donc pour aller dans son sens à lui aussi. Et l'idée, donc voilà, c'était ça. On est reparti sur vraiment toutes les vidéos, on les a retravaillées et remises plus à notre goût maintenant, on va dire.
D'accord. En même temps, le thème est assez précis tout de même. Pourquoi ce thème-là? D'où ça vous est venu?
Alors, je pense que déjà, j'aime beaucoup l'histoire.
Oui.
C'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant et de voir à la fois, de confronter à la fois l'humain et les choses plus rigides de l'histoire, on va dire, voilà, les dates, la politique qui doit être faite, et puis à côté il y a l'humain, et des fois ça se confronte, et ça, je trouve ça très intéressant. Les périodes de Première et Deuxième Guerre mondiale m'ont aussi toujours très, vraiment intéressée. Et donc là, on était en 2014, donc c'était vraiment... période du centenaire, et donc j'en ai profité pour lire des textes de Poilu un peu par hasard.
Oui.
Et je me suis rendu compte en lisant beaucoup que en fait c'était assez éloigné de ce qu'on nous enseigne en cours. Et voilà, il parlait pas forcément de la guerre et de tout ce qu'on apprend, des dates et tout ça. Il parlait vraiment de leur ressenti à eux, et parfois ils essayaient d'occulter toutes ces horreurs qu'ils voyaient, parce que ça a été vraiment une grosse boucherie, cette Première Guerre mondiale.
Tout à fait, oui.
Et donc, ils occultaient plein de choses. Et pour parler des fois de sujets vraiment anodins, de parler de nourriture, de leur permission. Et ça, je trouve ça très intéressant, en fait, de voir la psychologie derrière et de comment on s'en sort. Et après, c'est parti là-dessus. C'est comment on fait pour ne pas devenir fou dans une telle guerre et en voyant des horreurs tous les jours. Et c'était le principe. Voilà, c'était pas le principe d'utiliser donc un soldat qui va mourir à la guerre. Non, c'était celui qui reste jusqu'au bout et qui en sort et qui, quelques années après, est là. Comment il fait pour supporter ça?
D'accord. Et comment le public reçoit ce spectacle? Quelles sont les réactions après?
Alors, généralement, on s'attend pas à ça.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'on se dit, un spectacle sur la Première Guerre mondiale, on a tout de suite cette image de reconstitution, voilà, un peu dans le pathos peut-être. Et nous, c'est vraiment pas ce qu'on a voulu faire. Donc, c'est assez différent. Et ça, c'est un spectacle sur la Première Guerre mondiale, mais en même temps sur l'humanité en général. Et voilà, sur une personne qui traverse une guerre, qui traverse un moment terrible et comment il s'en sort. Donc, il y a aussi beaucoup d'ironie. Et ça surprend beaucoup le public. Et après, ils sont touchés par la façon dont écrivaient les Poilus, quoi. Parce que c'est vraiment, les mots sont magnifiques, il y a des tournures de phrases absolument exceptionnelles, et donc c'est très beau à écouter. Et on a eu des anciens combattants aussi qui sont venus, donc de plusieurs guerres différentes, jusqu'à des jeunes anciens combattants, et qui nous ont dit, mais vraiment, c'est ça. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu nous aussi. Alors après, des fois, les moyens de les consoler ne sont plus forcément les mêmes. C'est-à-dire que on avait en 1914, c'était le pinard, et maintenant c'est plus parfois des drogues plus un peu plus dures. Mais le principe, la façon de faire reste la même, et ils s'y retrouvaient vraiment beaucoup. Donc ça nous a aussi confortés quand on a eu ces témoignages de personnes. On s'est dit on se trompe pas. On se trompe pas.
Oui, on est dans le bon chemin, quoi. Ok, donc ce spectacle, vous allez le reporter sur scène prochainement?
Oui, tout à fait. On va jouer là, parce que nous, on est basé en région centre.
Oui.
Et donc, on va faire une nouvelle représentation donc à La Charpente, c'est à Amboise. Et donc là, c'est pareil, on le joue deux fois, et donc on ne dit pas qui joue à quel moment. Ce sera la surprise.
C'est super. Ok. Sans transition aucune, je voudrais vous parler donc d'une initiative que j'ai notée sur votre site, que j'ai trouvée assez originale, en tout cas pour un collectif de théâtre, d'artistes. C'est un festival qui s'appelle Chère Guyane. Alors, je précise pour les auditeurs, auditrices, c'est que Chère, il y a un petit jeu de mots entre Chère, le département, et Chère, l'adjectif féminin. C'est bien ça, hein? Donc, Chère Guyane Festival, qui est donc née de la rencontre entre les renards volants et la Guyane. Et là, du coup, pourquoi la Guyane dans le Cher? Il y a forcément une explication.
Et oui. Et bien justement, ça part de l'homme debout oui. du spectacle, où en fait on était sur une période où on cherchait à le jouer avec les institutions comme le Souvenir français, l'ONAC, et on a contacté l'ONAC, donc l'Office national des anciens combattants de la région Centre. Qu'on a contacté la directrice pour lui proposer le spectacle et elle nous a dit ça m'intéresse beaucoup mais je ne suis plus dans le Cher, en fait je suis en Guyane et voilà. Et okay. tout est parti de ça où en fait on a trouvé ça très intéressant de pouvoir essayer de monter un projet comme ça, donc ça a mis du temps parce qu'il y a eu c'est plusieurs choses et dans la politique à ce moment-là et dans notre collectif aussi et donc c'est en 2018 qu'on a pu aller en Guyane. On s'est dit c'est quand même là, ça y est, c'est la fin du centenaire, c'est un peu le moment d'aboutir à ce projet-là quand même. Donc on est parti en Guyane pour une tournée de 3 semaines et donc principalement à destination des scolaires. Donc on a fait et les représentations et des ateliers. Mmh. Et ça a à la fois révélé le spectacle parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était devant les jeunes qu'il fallait jouer ce spectacle-là. Ouais. Au départ, je jouais plus effectivement devant des anciens combattants, des personnes qui avaient déjà un certain vécu. Et en fait, on s'est rendu compte que devant les jeunes, ça marchait très bien. Mmh. Et qu'ils y comprenaient d'autant plus leur cours d'histoire. Donc c'était très intéressant de ce point de vue-là. Mmh. Et puis, on a découvert la Guyane et je crois que on en est tombé un peu amoureux à ce moment-là. Depuis, on y va tous les ans pour présenter nos spectacles, pour travailler, pour rencontrer les artistes. Et c'est vraiment parti du fait où à chaque fois qu'on revenait de Guyane, on expliquait « Ah, mais c'était formidable, on a rencontré plein de gens, puis c'est super la Guyane. » Et les gens ne comprenaient pas forcément parce qu'ils ne connaissaient pas.
Non. C'est vrai que c'est assez méconnu, quand même, la Guyane. C'est tellement loin de nous, on en parle très peu.
Oui, et puis souvent, quand on en parle, ce n'est pas forcément les meilleurs aspects.
C'est vrai.
C'est toujours dans des problématiques. Et donc, on se dit, c'est terrible, en fait, parce que c'est un département d'outre-mer, donc il fait partie de la France, et on ne le connaît pas, alors qu'on va mieux connaître l'Allemagne ou l'Italie, qui est juste à côté de nous. Et on ne nous en parle pas tellement. Alors, on trouvait ça vraiment dommage, et on s'est dit, non, mais il faut... En fait, il faut ramener la Guyane et montrer à quel point c'est formidable parce qu'il y a vraiment des artistes qui émergent en ce moment. Il y a une jeunesse qui est incroyable. On travaille avec des jeunes sur plusieurs mois à chaque fois et ils sont formidables. Donc c'est parti de là.
Donc du coup, est-ce qu'il y a une édition en 2023?
Oui, tout à fait. Elle est en pleine préparation.
Eh bien oui, j'imagine. Donc pareil, sur un délai de 4 jours.
C'est ça, en fait, on a 4 jours de festival public. Et après, autour de ces dates-là, on a des périodes en hors les murs, donc soit pour les scolaires, soit pour les habitants des communes autour. En fait, vraiment des communes de la région Centre, parce qu'on va jusqu'à Tours, on va à Bourges, vraiment, on bouge dans toute la région et on propose des actions en lien avec le festival.
D'accord. Donc, au programme de ce festival, qu'est-ce qui se passe en général? Il y a des concerts, il y a des représentations. Qu'est-ce qui se passe?
En général, en fait, l'idée, c'est vraiment d'offrir un festival qui soit pluridisciplinaire pour que ça puisse convenir à tout le monde et de faire découvrir des choses à tout le monde. À la fois faire découvrir la Guyane, mais aussi faire découvrir le côté artistique, le côté culturel. Donc, on a aussi bien du spectacle vivant, donc concerts, danse ou théâtre, et avec des ateliers à chaque fois. Donc, quand on fait venir les artistes, on essaye de faire en sorte qu'ils aient au moins une rencontre avec le public et dans le meilleur des cas, un atelier pour pouvoir partager leur travail. Et puis après, donc il y a aussi de la photo, du cinéma, donc on a souvent des courts-métrages aussi. Et puis la gastronomie, parce que c'est important de pouvoir faire découvrir d'autres goûts aussi. Et donc, on a un peu d'artisanat, on a toutes sortes de choses en fait qui regroupent. Ça peut être vraiment tous les arts et ça dépend de l'année en fait. Ça dépend du programme, ça dépend de ce qui se fait en ce moment.
Bien sûr. Donc, est-ce que vous avez déjà les dates 2023?
Oui. Donc c'est du 11 au 14 mai.
D'accord. Ça se passe dans quelle ville exactement?
Donc, ça se passe à Vierzon, dans le Cher.
Ouais. Ok, donc évidemment, je remettrai en barre d'informations de l'épisode tous les liens, toutes les possibilités, parce que bah, du coup, c'est plutôt sympatoche pour se faire un petit week-end dans le Cher, ça.
C'est plutôt sympathique, ouais.
Ouais, c'est une bonne idée. Ok, c'est noté. Vous disiez tout à l'heure, Océane, que vous ne faisiez pas que des spectacles, pas que du festival, mais aussi de la vidéo et de la photo. Alors effectivement, en fouillant un peu, je suis tombée sur une drôle de chaîne YouTube, pareil, qui dénote un peu, je trouve, pour un collectif d'artistes, mais pourquoi pas, c'est original, c'est plutôt frais et sympatoche. C'est donc « Allez, fais pas ta pub ». C'est ça, hein ?« Allez, fais pas ta pub ». Qu'est-ce que c'est donc ?
Eh bien, c'est une chaîne YouTube de fausses publicités qui nous permet de montrer un peu les dérives de la publicité et de mettre en exergue un peu certains principes de la pub et de la communication. Donc voilà, on s'amuse de ça. Donc c'est toujours un peu grinçant et en même temps drôle. Voilà, c'est l'idée et c'est... Mmh. Et c'est un peu toujours dans notre principe de collectif, c'est de faire discuter, en fait, de faire parler les gens, de faire se poser des questions. Voilà.
Oui, c'est vrai, j'en ai regardé quelques-unes, effectivement, elles sont toutes très amusantes. Elles sont un peu dans la lignée des fausses pubs comme pouvaient le faire les nuls à l'époque. Un petit peu dans ce truc-là, on rigole, on est là vraiment pour que ce soit drôle. Et en même temps, derrière, effectivement, on perçoit quand même une critique. Et c'est quand même super intéressant. Du coup, qui écrit les scripts alors ? Vous le faites en collectif ?
Oui, alors ça vient de Mathieu ou de moi, généralement. C'est souvent où il y en a un qui arrive, qui dit « j'ai une idée, c'est bon, on va faire ça ». Voilà, ça se passe un peu comme ça. Et puis après, donc c'est vraiment Mathieu qui réalise. Moi, je l'assiste dans mes capacités. Mais voilà, c'est à la réalisation, c'est vraiment Mathieu. Et après, on travaille. C'est sur ce travail, ça nous permet vraiment de proposer à des artistes avec qui on n'a pas encore eu l'occasion de travailler, mais qu'on a vraiment envie de faire des choses, de nous proposer une petite forme rapide, voilà, qui leur prend pas beaucoup de temps et qui est assez amusante à faire.
Ouais, c'est sympa ça comme première petite collaboration de contact. C'est vraiment très chouette. Donc effectivement, moi j'avais remarqué sur ces petits formats, ces petits films, la qualité d'image, la qualité de tournage, et donc tout s'explique puisque Mathieu donc est dans l'audiovisuel, c'est son métier.
Oui, tout à fait. Oui, il est réalisateur et c'est vraiment, c'était vraiment aussi le but, c'est de pouvoir à chaque fois d'essayer d'aller un peu plus loin dans la technique aussi, de vraiment mettre un contenu aussi de qualité. Voilà, donc c'est pour ça que souvent ça prend du temps et qu'on n'en sort pas tout le temps parce que on travaille aussi sur le format publicité, parce que le format publicité, souvent elles sont très bien faites. Ça dépend du genre de pub, mais si on s'attaque à une pub de mode ou de choses qui doivent être très bien faites, on se doit d'essayer de tendre vers ça. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui prennent plus ou moins de temps.
Ok, en tout cas, elles sont très amusantes. Vraiment, pareil, je mettrai le lien. C'est sympa, une petite pause dans la journée comme ça, en regardant deux, trois petites pubs. Et puis alors, le titre, je le trouve très bien trouvé. Donc, 2023 va être quand même actif parce qu'il y a donc Cher Guyane Festival qui arrive, donc du 11 au 14 mai à Vierzon. Et puis, il y a ce spectacle L'Homme Debout aussi qui va avoir quelques dates. Eh bien, merci beaucoup Océane pour ce temps. Et puis, bien, longue vie au renard volant et qu'il vole vers plein de succès. On va dire ça comme ça.
Merci beaucoup.
Merci. Notre podcast s'appelle L'entrée des coulisses, une façon de passer derrière la scène, derrière le rideau, pour découvrir tout ce qu'on ne voit pas quand on est installé dans les fauteuils de la salle en tant que spectateur ou spectatrice. Découvrir des artistes, des thématiques, des techniques, bref, vous le savez maintenant, pour des découvertes agréables et inspirantes dans le domaine du spectacle vivant. Mais en coulisses, il se passe aussi des choses sombres et douloureuses dont on ne parle pas assez. Derrière le rideau, C'est le nom d'un podcast et aussi le nom d'une association dont nous allons parler maintenant. Et pour ce faire, je reçois Mélodie Molinaro.
Alors bonjour, je suis Mélodie Molinaro et je suis la présidente de l'association Derrière le rideau, qui est une association qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle.
Alors, Mélodie, vous êtes donc la présidente de Derrière le rideau. Quelle est la mission exactement de cette association ? Derrière le rideau, c'est à la fois une association et à la fois un podcast. On va pouvoir y revenir. Pour l'instant, sur ce qui concerne vraiment l'association, quelle est sa mission ? Depuis quand existe-t-elle ?
Alors, elle existe officiellement, donc avec un vrai statut associatif, depuis juin 2021. Mais j'ai commencé les démarches en septembre 2020. Quand je parle des démarches, c'est que j'avais donc envie de créer un collectif, enfin une association pour lutter contre les violences dans le milieu du spectacle. Quand j'entends et libérer la parole, j'entends par là de mettre à disposition différents outils pour informer, faire de la prévention, pour un peu casser les idées reçues qu'on a dans notre milieu du spectacle, puisque je suis moi-même comédienne et chanteuse, enfin j'ai plein de casquettes, et de aussi un peu casser les schémas et des choses qu'on a pu vivre, qu'on a pu entendre, enfin voilà, de changer un peu les mentalités sur notre milieu où finalement il n'y a pas vraiment de cadre, et donc d'apprendre un peu à savoir ce qui est normal ou pas, ce qu'on a le droit de refuser, enfin voilà, donc les actions sont vraiment de lutter contre les violences, d'informer, de créer une forme de safe space où on puisse aborder des thématiques un peu taboues finalement de notre milieu du spectacle, voilà, parce que comme on est très nombreux et pas beaucoup de boulot, il y a une forme de compétition qui est toujours un peu là, de forme de non-dit aussi, d'omerta, de choses qu'on peut pas dire parce qu'on a tellement peur d'être blacklisté. Yes. Donc voilà, c'était un peu casser tous ces codes-là et dire « Oh, stop, en fait !» Ça surfe complètement sur la vague du hashtag MeToo, en fait. Enfin voilà, il y a ce truc de « On en a marre !» On en a marre de faire semblant, de faire comme si tout est beau, tout est rose, c'est fabuleux, le milieu du spectacle, c'est fabuleux, ça peut l'être, mais il y a des choses derrière le rideau qui le sont beaucoup moins. Et donc c'était hyper important pour moi de pointer ça du doigt, et pour les étudiants en sortant d'école, pour des gens qui travaillent déjà, qui ont donc déjà vécu éventuellement des choses. Enfin voilà, donc il y a différentes missions, différents formats, différentes actions qu'on mène au sein de l'association pour justement un peu lutter contre toutes ces choses-là et faire mettre notre... J'ai pas la prétention d'être une révolutionnaire, d'être une justicière, c'est juste mettre ma petite pierre à l'édifice pour que les gens se sentent aidés, soutenus, écoutés, entendus, parce qu'il y a ça aussi.
Oui.
On n'ose pas parler. On a peur de ça. Ouais. Donc voilà, c'était d'avoir de lutter à un endroit où là, ok, moi je vous crois, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que vous me racontez, je ne cherche pas à savoir la vérité ou pas. Moi, votre histoire, je l'entends et je vous crois. Et il faut arrêter d'avoir peur, d'oser parler. Et parce que pour moi, déjà, témoigner, c'est se reconstruire. C'est aussi, ça fait souvent effet miroir avec les gens, avec d'autres personnes. Enfin, voilà, c'est vraiment un peu lâcher, libérer la parole et arrêter d'avoir peur en permanence, en fait.
Dans une de mes pièces, j'avais écrit une phrase qui n'est pas assez originale, mais je disais dire, c'est déjà commencer à guérir. C'est un peu ce que j'entends dans ce que vous me dites.
Complètement, mais c'est pour peu importe ce qu'on a vécu, en fait. C'est un premier pas vers l'acceptation, que ce soit un deuil. D'en parler, c'est de parler d'un deuil, de dire que la personne est décédée, de le dire, ça a tout de suite une autre puissance et c'est acter la chose. Donc de dire qu'on a vécu quelque chose qui nous a blessé, peu importe en fait comment la personne en face va le recevoir, c'est nous comment ça nous a touché et qu'est-ce que ça éveille en nous, de la tristesse, de la violence, de la culpabilité, de la colère. C'est juste de le verbaliser, c'est déjà une étape énorme et essentiel pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre aussi ce qui s'est passé et ne pas répéter. Parce qu'il y a aussi vraiment ça, c'est que c'est que on est dans des schémas qui sont quand on a vécu un traumatisme, si on n'en a pas conscience que c'est un traumatisme et que ça nous a profondément touché, on risque de le répéter, répéter, répéter jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à ce que, enfin voilà, jusqu'à l'irréparable. L'irréparable, je ne souhaite à personne, mais en tout cas, ou en tout cas en étant profondément malheureux, on a l'impression d'avoir une histoire de karma qui s'acharne sur nous. Non, c'est aussi à nous de dire en fait ça, c'est pas ok. Alors peut-être que ma collègue qui a passé le même casting que moi, elle a accepté ces choses-là, mais moi ça c'est pas ok pour moi. Et en fait, à partir de là, c'est le libre arbitre de chacun, c'est le ressenti de chacun, et il est précieux et il faut l'écouter. Et donc effectivement, en parler, c'est la base et le fondement, et c'est primordial, et ça fera forcément écho à quelqu'un d'autre,
c'est sûr. Cette association, elle propose un accompagnement qui est très concret, donc un accompagnement sur des conseils juridiques, une écoute psychologique, des cercles de parole. Donc ça résume un peu tout ce que vous venez de dire, hein, Mélodie. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec tout ce mouvement MeToo, hein, qui a été initié par le monde du cinéma en 2017 déjà, je crois. Hein, donc ça reste quand même assez récent finalement. Est-ce que ce sont les mêmes mécanismes dans ces deux mondes artistiques, le monde du cinéma, le monde du théâtre? Est-ce que les artistes, les techniciennes, parce que ça concerne quand même beaucoup les femmes, on est quand même soumis au désir d'un producteur, au désir de travailler, d'intégrer une équipe et de pouvoir y rester. Ça implique donc forcément un rapport de domination-soumission. Et on ressent ça très fortement. Est-ce que donc ce sont les mêmes mécanismes dans ces deux mondes artistiques-là?
Pour moi, c'est complètement les mêmes, mais c'est les mêmes, moi, même dans tous les milieux, dans le milieu artistique, il y a une donnée qui est différente, j'ai l'impression, par rapport au milieu de l'entreprise, si on peut dire. Il y a de toute façon un cadre de pouvoir. Oui. Là, vous étiez en train de dominer, mais c'est un truc de pouvoir. Où la personne qui nous encoste, voilà, c'est elle qui tient, quelque part, notre avenir entre les mains. Et ça, c'est le cas concret et factuel qui existe dans tous les milieux, et donc les abus peuvent apparaître partout, peu importe, dans le cinéma, dans la banque, dans tout. Enfin, d'ailleurs, depuis le mouvement hashtag MeToo, il y a des hashtag MeToo dans tous les sens pour tous les milieux maintenant.
C'est vrai.
Et ce qui est très spécifique à notre milieu, c'est que nous, il y a un vrai côté affect. C'est que le personnel et le professionnel est très vite mélangé, parce que quand on passe une audition, quand on est dans un spectacle, même si on interprète un personnage, c'est nous. On se met à nu, d'une certaine façon. On a un vrai truc de ouais, on donne de notre personne, et c'est notre personnalité, l'humain qu'on est, qui fait d'ailleurs toute la spécificité du personnage qu'on interprète. C'est aussi souvent pour ça qu'on est choisi, parce qu'il y a notre énergie, tout correspond au rôle. Mais donc, du coup, ça nous met dans un endroit de vulnérabilité qui peut être magnifique.
Oui.
Qui est, je trouve, merveilleux dans notre milieu. Mais si on est face à quelqu'un en face de nous qui n'est pas qui est un prédateur, ou qui n'est pas sain, et qui use des ficelles en étant un peu pervers, ou justement en jouant sur ce truc de tout est un peu mélangé, parce que bah en fait on répète ensemble, mais c'est cool d'aller boire des coups après avec l'équipe, parce que voilà, ça crée une osmose. Ouais, mais donc du coup, je m'entends bien avec mon metteur en scène. Ben, il me drague, oui, mais est-ce qu'il me drague vraiment? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est aussi mon partenaire de scène, mais donc du coup, est-ce que il est toujours dans son rôle? Enfin voilà, il y a tout un truc. Il n'y a pas de cadre. Et moi, c'est vraiment ça sur lequel j'ai envie d'appuyer avec Derrière le rideau, c'est de... Justement, comme il n'y a pas de cadre, créons-nous notre propre cadre, nos propres limites, et apprenons à écouter notre truc intérieur. Encore une fois, on a tous très envie de travailler. On a tous, effectivement, c'est ce qui fait la beauté de notre milieu aussi, c'est d'arriver avec soi, de donner de sa personne, d'être dans un truc et de faire le côté humain. C'est beau, mais il faut pas se brûler les ailes, et il faut pas se donner tout entier. Et être seulement à la merci de la personne qui a quelque part la décision finale, que ce soit le metteur en scène, la productrice, le, enfin, ouais. Ils ont aussi autant besoin de, enfin, nous on a autant besoin d'eux que eux ont besoin de nous. Déjà, faut se le rappeler.
Oui, oui.
Et surtout, il faut apprendre à nous poser nos limites. C'est à l'autre, évidemment, de pas les dépasser. Mais sinon, on n'en met pas. Comme il y a zéro cadre et que de toute façon tout est mélangé, parce qu'on est dans un milieu où on aura beau mettre un cadre, le perso et le pro est souvent mélangé, et c'est ce qui fait que c'est beau. On est des familles pendant un temps, pendant 3 mois, on joue un spectacle, on est tous ensemble, et c'est ce qui est beau et c'est magique. Mais du coup, il y a des limites qui peuvent être dépassées, et sans trop qu'on s'en rende compte sur le moment en plus.
Oui.
On ne se rend pas forcément compte que ces limites-là sont dépassées. C'est souvent a posteriori, on se dit, oula, attends, est-ce que j'étais vraiment OK avec ça?
Oui.
Est-ce que c'était clair pour moi? Enfin voilà, donc pour moi, c'est très similaire, cinéma et spectacle vivant, même si derrière le rideau, je précise que c'est de le spectacle vivant, mais dans le cadre notamment du podcast que j'ai, j'ai des témoignages qui sont plutôt dans le ciné. C'est pas pour autant que j'ai fait, ah non, ça ne concerne pas, parce que c'est le même mécanisme.
Bien sûr.
C'est exactement les mêmes mécanismes partout et dans tout. C'est les mécanismes de notre société, en fait. Les abus de pouvoir, il y en a dans tous les sens. Je dis juste que la différence, nous, dans notre milieu, c'est que on n'a pas de RH, on n'a pas de gens qui sont là pour recadrer et imposer des règles sur les limites dans que ton employeur n'a pas le droit de t'envoyer un texto à 22h. Enfin, voilà, il y a des choses qui ne sont pas... Il n'y a pas de règles dans notre milieu. Et c'est ce qui crée, du coup, des abus.
Alors, justement, le podcast, puisque Derrière le rideau, c'est aussi un podcast, dont je mettrai les liens en barre d'information de cet épisode. Donc, ce podcast, moi, j'en ai écouté plusieurs. J'ai écouté plusieurs témoignages. J'ai été absolument effarée et parfois choquée des violences subies, en fait. Qui sont pas forcément des violences physiques au sens où on l'entend, hein. Ce sont de véritables violences psychologiques, du harcèlement, vraiment des choses terribles. Moi, je trouvais ça absolument édifiant, en sachant qu'en plus, que ça arrive dans tous les milieux, que ça peut être dans une toute petite troupe, un peu confidentielle, jusque dans une grande école de théâtre, voire des grandes théâtre. En tout cas, moi, il y a certains témoignages qui m'ont beaucoup touchée. Justement, vous, comment vous recueillez la parole de ces femmes, de ces artistes, qui ne sont pas toutes artistes d'ailleurs, il y a aussi d'autres...
Ouais. Et c'est d'ailleurs important parce que ce n'est pas forcément toujours les mêmes rapports d'ailleurs.
Exactement.
Comment je les recueille? Déjà, à la base, Derrière le rideau, effectivement, c'est né d'un podcast.
Oui.
Moi, je voulais vraiment, je voulais vraiment pouvoir laisser un endroit, un espace où on puisse justement, comme on le disait au tout début, laisser les personnes s'exprimer librement et anonymement.
Oui.
Anonymement. Pourquoi ? Pour que la personne qui témoigne se sente protégée.
Oui.
Déjà, d'une part, c'est déjà tellement intime et difficile de re-raconter une histoire qui nous a fait du mal, qui nous a traumatisé. J'avais pas en plus envie que les personnes se sentent vraiment complètement mises à nu devant les gens qui écoutent.
Bien
et reconnues, forcément, c'était vraiment pas mon but. Anonyme aussi dans le fait que je ne voulais pas que les agresseurs ou agresseuses soient nommés. Ça, c'est pour aussi des cas de protection juridique.
Bien sûr.
Paquet de diffamation. Et puis, encore une fois, c'était pas le but. Derrière le rideau, on n'a aucun but de dire, de pointer du doigt les agresseurs ou agresseuses. C'est pas ça le but, c'est pas du tout de dire lui vraiment non, faut pas y aller, parce que encore une fois je suis ni justicière ni avocate ni rien, ce n'est pas mon travail. Derrière le rideau a pour but d'être là pour les victimes et de donner des espaces, des endroits, des infos vraiment destinées aux personnes qui ne savent pas où chercher. J'ai été en lien avec plusieurs personnes qui connaissaient des gens qui avaient vécu quelque chose sans trop savoir ce qu'ils ressentaient. Et je leur ai dit, venez, on tente, on raconte et on voit ce qui se passe.
Mm-hmm.
Et c'est parti de là. Et en fait, ça a été plutôt finalement un bouche à oreille de personnes qui ont écouté le podcast, qui se sont dit, ah tiens, j'ai aussi envie de témoigner. Ou même des gens qui m'ont dit, waouh, en fait, je me rends compte que j'ai vécu la même chose.
Oui.
J'ai été outrée d'entendre ça de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça fait deux jours que je me dis que j'ai vécu la même chose et pourquoi j'ai pas, moi, réagi, parce que ça m'a outré quand j'ai entendu sa version à elle. Enfin, voilà. Donc, ça a vraiment fait un effet un peu ping-pong et vraiment de bouche à oreille. J'ai rarement, enfin, j'ai jamais fait d'appel à témoignage. J'étais pas dans un truc de si vous voulez témoigner, enfin, en tout cas, de faire un post en disant si vous voulez témoigner. Je le dis à chaque fin d'épisode. Mais justement parce que c'est ciblé aux personnes qui ont écouté, dire si vous voulez, vous pouvez. Tout comme les personnes qui témoignent, moi je suis vraiment hyper vigilante avec ça. Quand je fais le montage, je leur envoie, enfin je leur fais signer une charte en disant si, enfin je ne diffuse rien sans l'accord de la personne. Si jamais, quand j'envoie le montage ne convient pas, finalement ce passage-là, j'ai plus envie qu'on le raconte, tout ça, ou j'ai même plus, je ne me sens pas capable que ce soit diffusé, même si c'est anonyme. En fait, c'est OK. J'ai zéro intérêt, moi, à ce que la personne se sente prise au piège. Le but, c'est que ce soit vraiment un échange et que ça fasse du bien.
Oui.
Et qu'on se sente en sécurité. Et c'est tellement important de se sentir entendu.
Oui.
De dire qu'on nous croit. Moi, il y a eu des fois, c'était assez bouleversant parce que je me rends compte que ces personnes-là, c'est la première fois qu'elles racontaient véritablement leur histoire.
Oui.
Et que en parlant, c'est moi aussi qui les recadrais, mais j'entendais énormément de culpabilité dans leur bouche, leur dire en fait non, attends, juste là, dans l'histoire, je n'ai en rien coupable. Parce que moi aussi, j'ai été victime, moi aussi, j'ai culpabilisé, je connais aussi tout ce processus-là. Et donc, je trouve ça aussi intéressant, encore une fois, sans être psychologue ni rien, mais de dire, si déjà tu ressens le besoin d'en parler, si et ça t'a fait mal à un endroit, en fait, tu as été victime, même si on n'aime pas ce mot, mais il y a quelque chose qui t'a profondément blessé. C'est très compliqué d'en prendre conscience déjà soi, de l'accepter, de se dire où est-ce que moi j'ai merdé, quelle est la porte que j'ai laissée ouverte pour qu'on puisse arriver là. Et c'est souvent, ça arrive des années plus tard, on se rend compte que c'était pas OK. C'est ça aussi, c'est que moi, j'avais vraiment envie de donner un endroit où on puisse en parler. Et parce qu'on sait qu'on a peur de, si on en parle à notre partenaire de scène, à nos copines ou autres comédiens et tout, on passe pour la sainte moutouche ou pour celui qui est un peu trop pudique.
Oui.
Non, en fait, si toi, ça t'a mis mal à l'aise, bah, c'est qu'il y a un problème. Et c'est que, il faut s'écouter, il faut écouter ça. Apprendre à écouter sa petite voix intérieure qu'on nous a bien appris à taire quand on était en école de théâtre.
Oui.
On doit être à la merci.
C'est vrai. C'est vrai, malheureusement. Les victimes se sentent souvent coupables. Et ça, c'est terrible, terrible. Et du coup, cet accompagnement, cette écoute, cette réception comme ça, se venir se poser un peu entre vos paumes bienveillantes, ça doit faire énormément de bien. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans les épisodes que j'ai écoutés, alors je ne sais pas comment formuler ça, mais les autres partenaires, parfois, soit ne se rendent pas compte de ces violences psychologiques, soit ne veulent pas les voir. Et ça m'a beaucoup frappé aussi. C'est-à-dire que dans une troupe, voilà, quand on est en tournée, quand on est sur un spectacle, on peut très bien voir que il y a une collègue, une comédienne qui a des ennuis, on va dire, avec le metteur en scène ou un technicien ou je ne sais quoi, et ne dire rien. Alors, je ne veux pas du tout lancer la pierre en disant c'est mal, parce que c'est parfois, justement, vous le disiez tout à l'heure, parfois c'est tellement insidieux, c'est pas très facile non plus de déceler ça, de s'en rendre compte et après de se placer par rapport à ça.
Encore une fois, on agit. Enfin, il y a toujours une véritable peur. J'ai l'impression dans notre milieu d'être blacklisté et que on peut plus travailler avec nous. Si jamais on se place, même se positionne, on fasse preuve d'être, que ce soit tout de suite pris comme un affront et comme un coup d'ego ou j'en sais rien. Et alors que non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc du coup. Effectivement, et surtout quand on est victime, c'est compliqué d'en prendre conscience. Mais surtout si en plus on est face à des gens qui le voient, mais qui le réceptionnent pas ou qui veulent pas le voir parce que ça leur fait peur, ils savent pas trop, ou parce qu'ils n'ont pas envie. En fait, il y a aussi des gens
oui.
qui sont en flash aussi, hein. Enfin, voilà, qui veulent sauver, qui sont très égocentrés, qui veulent, qui pensent à eux sans forcément se rendre compte que ça peut blesser l'autre et abandonner l'autre. Ça, y a, c'est aussi des tempéraments. Surtout quand on est dans le cadre d'abus de pouvoir et que si c'est la personne qui emploie, qui a le mot décisif, qui fait ces abus-là, c'est normal aussi d'avoir cette peur de dire, bah oui, mais si je dis, ouais, en fait, j'ai vu que tu l'avais mis la main aux fesses, c'est pas OK.
Bah oui.
D'avoir peur de dire, oui, bah, il peut aussi me mettre dehors, est-ce que j'ai envie de me... C'est pas moi qui était, pas qui m'a mis la main aux fesses. Bon, bon, bah, après, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que j'ai vraiment envie de me prononcer? Moi, pour moi, oui. C'est, il faut se prononcer parce que je trouve qu'on manque considérablement de solidarité à ce moment-là, à cet endroit-là.
Mmh.
Qu'il faut aussi arrêter de donner du crédit à ces gens qui abusent. Et on sait, enfin, moi, avec Derrière le rideau, même si j'ai, c'est anonyme, la liste noire, je l'ai. Et j'ai aussi, je suis très outrée de savoir que quand on discute un peu entre nous, d'avoir des noms qui reviennent en permanence, mais ces gens continuent de travailler. Parce que, aussi, on continue de passer des auditions pour eux. On continue de leur donner du crédit. Et c'est là où, moi, la pilule passe de moins en moins. Mmh. C'est-à-dire que si on a véritablement envie de faire changer les choses, il faut se positionner, il faut arrêter de donner du crédit, arrêter de donner de l'importance à ces gens-là et leur dire, en fait, maintenant, stop. Il faut aussi, nous, à notre échelle, c'est notre devoir en étant aussi en bas de l'échelle, c'est-à-dire pas forcément chef de projet et tout, mais juste comédien, interprète, bien de sûr. Dire, en fait, oui, non, je le boycotte. Alors, peut-être que ton voisin ne le boycottera pas, mais toi,
oui.
déjà, si tu le fais, c'est un premier pas. Parce que tout, ça va peut-être motiver les deux autres à le faire aussi.
Tout à
et
fait.
Puis voilà, il va y avoir des choses qui vont se bouger.
Mmh.
J'espère.
À l'époque, Mélodie, vous avez dit que vous aussi, vous avez dû certainement être face à ce genre de personnes. À l'époque, quelle aide vous avez trouvé? Quelle écoute vous avez trouvé?
Aucune. Non, moi, j'ai eu plusieurs événements un peu traumatiques, mais il y en a un, surtout dans ce milieu-là, un casting qui s'est extrêmement mal passé. Et du coup, j'ai eu le réflexe de vouloir porter plainte. Le problème, c'est que j'ai été extrêmement mal accueillie par la police, qui n'a pas voulu ma plainte parce que je n'avais pas de preuves concrètes. Et, la seule chose qu'on m'a dit, d'ailleurs, j'ai témoigné moi-même dans mon podcast, c'était très bouleversant, très étonnant de passer de l'autre côté. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis vraiment rendu compte du bien que ça pouvait faire et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses aussi. Donc, c'était super, finalement.
Mmh.
Non, mais d'avoir aussi vraiment ce manque de considération de la part de la justice qui est censée nous défendre et nous protéger en me disant que voilà, je l'avais un peu cherché, que j'aurais dû mieux me renseigner et tout ça. Maintenant, avec le recul et en discutant avec aussi plein de personnes qui, eux, sont allées porter plainte, j'aurais sûrement fait les choses différemment. C'est-à-dire que j'aurais vraiment pris le temps peut-être de rassembler plus de preuves, enfin vraiment de chercher, pas d'y aller à vie. Là, c'était parce que pour moi, c'était quelque chose, j'étais tellement en état de choc, j'y suis allée, je crois, 2-3 jours après. Donc forcément, tout était mélangé et il y avait quelque chose, au-delà du fait que pour moi, c'était intolérable qu'ils ne prennent pas en cause ma plainte. Ça, c'est, voilà.
Oui.
Mais je pense que j'aurais pu construire mieux mon dossier pour être prise plus au sérieux. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Et surtout, Derrière le rideau et ma force, c'est pas ma rédemption, mais ma réparation aussi, de me dire, OK, moi, j'ai vécu ça, j'ai pas envie que les autres puissent le vivre. Ou en tout cas, ceux qui l'ont vécu, comment on peut s'entraider et comment on peut trouver des solutions ensemble. Voilà, c'est aussi ça, pour ça que j'ai monté Derrière le rideau, pour qu'il y ait vraiment une solidarité et un soutien que moi, je n'ai pas eu à l'époque.
Bah, c'est en tout cas une initiative très belle, très généreuse et certainement très efficace qui doit faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc je suppose que si on a besoin de faire appel à vous, on peut vous contacter. Vous êtes là, vous êtes à l'écoute, en soutien. Je mettrai évidemment tous les liens nécessaires pour. J'invite évidemment tous nos auditeurs, auditrices à aller écouter ce podcast aussi derrière le rideau, parce qu'il y a certains, ils sont tous intéressants et bouleversants, hein, dans chacun à leur manière, mais vraiment il y en a certains qui moi m'ont vraiment fait beaucoup de peine, et voilà, que dire d'autre. Mais vous êtes aussi une artiste quand même, vous êtes comédienne, chanteuse, je crois, si j'ai bien lu quelque part, je crois que vous avez fait partie des Coquettes.
Je fais partie des Coquettes.
Vous faites partie des Coquettes maintenant. Voilà, qui a un groupe super génial, un trio vocal, ouais, un peu humoristique super. Donc ouais, voilà, j'espère que vous avez des beaux projets.
Oui, c'est chouette, ouais, j'ai des chouettes trucs sur le feu, donc c'est cool.
Très bien, avec des personnes sympathiques, je vous l'espère aussi.
Ah ben ça, de toute façon, c'est mon but dans la vie maintenant, je vais m'entourer des gens sympathiques et bienveillants.
Merci.
Merci beaucoup, Isabelle.
Agatha Christie. Que vous aimiez ou non les romans policiers, c'est un nom que vous connaissez certainement. Eh bien, cet auteur a signé plusieurs pièces de théâtre et c'est Marion Lorgnet de Théâtre en mille et un lieux qui nous raconte tout ça.
Célébrissime pour ses polars, Agatha Christie était aussi une dramaturge à succès. Et oui, non contente d'être une romancière de polar culte aux quatre coins du globe, Agatha Christie a également écrit une vingtaine de pièces de théâtre, créées dès les années 1920 en Angleterre et aux États-Unis. Une part assez méconnue chez nous en France, tout simplement parce que ces pièces ne furent traduites et éditées que très récemment. Ce qui explique que les pièces d'Agatha Christie n'ont jamais eu en France la popularité de ses romans. Mais autrement, c'est une autre histoire. Régulièrement acclamée pour ses qualités de dramaturge, la reine du crime continue de faire les beaux jours des théâtres britanniques. À commencer par le Saint-Martin's et sa pièce phare, La Souricière. Cette pièce totalise le plus grand nombre de représentations consécutives au monde depuis sa création à Londres en 1952. La pièce n'a jamais quitté l'affiche de ce théâtre. La pièce est une adaptation d'un mystère radiophonique écrit en 1947 pour les 80 ans de la reine Marie. La pièce est célèbre pour son dénouement à surprise, que les spectateurs sont priés de ne pas révéler, comme le demande la dernière réplique de la pièce donnée par le policier. Chers spectateurs, complices du crime, merci d'être venus et de ne pas révéler l'identité du meurtrier. Malgré le succès de cette pièce, La Souricière n'a jamais été adaptée au cinéma. Les droits de diffusion ont pourtant bien été vendus il y a des décennies, mais avec la condition de ne réaliser cette œuvre cinématographique qu'une fois les représentations théâtrales terminées. Et voilà, c'est pour cette raison que la pièce de théâtre n'a jamais vu le jour au cinéma ou à la télévision. La passion d'Agatha Christie pour le théâtre remonte à l'enfance. Dans la famille, nous étions tous des amateurs de théâtre, confirme-t-elle dans son autobiographie. Après avoir vu certains de ses romans adaptés en pièces de théâtre et ne pas avoir du tout apprécié ces adaptations, la romancière décide de se lancer dans l'écriture dramatique. Ce qui me décida, dit-elle, c'est l'irritation de voir des gens adapter mes livres pour le théâtre d'une façon qui ne me plaît pas. En 1929, elle s'attelle à la rédaction de Black Coffee, une histoire d'espionnage qu'elle jugera bourrée de clichés mais pas si mauvaise. Malgré les réticences de son agent, Agatha Christie parvient à faire monter la pièce en décembre 1930. Celle-ci remporte un joli succès et connaît même une adaptation sur grand écran quelques mois plus tard. Mais ces vrais galons de dramaturge, Agatha les gagnera en réalité quelques années plus tard avec la difficile adaptation de son roman « Les dix petits nègres ». Montée pendant la guerre, malgré les bombardements allemands, cette pièce est acclamée par la critique et triomphe à New York sous le titre de « Ten Little Indians »,« Dix petits indiens ». Encouragée par ce succès, la romancière réalise vite l'intérêt de l'écriture dramatique. Les pièces de théâtre, dit-elle, sont beaucoup plus faciles à mettre en texte qu'un livre, car on peut les visualiser dans son esprit. On n'est pas empêtré dans toutes ces descriptions qui entravent si terriblement un roman et nous empêchent de dérouler le fil de l'action. Les pièces d'Agatha Christie sont quasiment toutes des adaptations théâtrales de ses romans, où Hercule Poirot y est définitivement et volontairement absent, afin de ne pas détourner les spectateurs de l'intrigue policière. Le rôle du détective est alors tenu par un personnage secondaire, un avocat, un promeneur, etc. Mais avec la pièce « Le prix du sacrifice », Agatha signe l'une de ses rares pièces non policières. Écrite dans les années 1930, « Le prix du sacrifice » est d'abord paru sous forme de roman, puis de pièce de théâtre en 1952. Le texte développe avec finesse et subtilité la relation compliquée d'une mère, Anne, et de sa fille Sarah. Sarah a fait son service dans la Royal Air Force et rentre après 3 ans d'absence chez sa mère, avec lequel elle entretient une relation fusionnelle. Veuve, Anne a l'intention de se remarier une semaine après le retour de sa fille, ce qui n'est pas du tout du goût de Sarah, qui s'arrange pour faire reporter le mariage. Elle est odieuse avec Richard, le futur mari. Sous prétexte de protéger sa mère, elle prétend qu'il n'est pas fait pour elle. Le mariage est annulé et Anne se sépare de Richard. 3 ans plus tard, Anne dissimule son malheur dans des relations sans avenir. Sarah, elle, n'est pas heureuse non plus et se laisse séduire par Lawrence, un riche divorcé qui lui promet fourrure et soirée mondaine. Mais c'est un homme brutal. Et Anne ne fait rien pour empêcher ce mariage, malgré les doutes de sa fille. Des années plus tard, Sarah reprochera à sa mère de lui avoir fait payer le prix de son sacrifice au cours d'un face-à-face final. Cette pièce démontre bien le talent d'Agatha Christie pour écrire des pièces de théâtre, et pas seulement des pièces policières. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque d'Agatha Christie et le théâtre. Mais notre reine du polar nous réserve encore des surprises et fera sûrement l'objet d'un autre tout ou presque.
Et voilà, nous avons encore une fois visité 3 coulisses, comme toujours dans ce podcast. Cet épisode est le dernier de la saison 3. Nous allons en effet faire une pause dans la diffusion de nouveaux épisodes. Une pause jusqu'en septembre prochain. Parce que j'ai moi-même besoin de souffler un peu, de travailler sur les réseaux sociaux du podcast, de contacter des artistes, des personnes impliquées dans la vie culturelle, de découvrir moi-même de nouvelles coulisses. Mais, je ne vais pas vous abandonner pour autant. Dans les semaines qui vont suivre, des zooms vont être publiés, des retours sur des moments marquants de certains épisodes, et certains épisodes même anciens. Et cet été, vous pourrez aussi écouter un format éphémère et très différent de nos épisodes habituels, et ce sera à découvrir cet été. Allez, profitez bien du printemps, profitez bien de votre été, gardez dans vos oreilles notre podcast « L'entrée des coulisses » pour accompagner vos promenades, vos voyages, vos tâches quotidiennes ou vos moments de pause. N'hésitez pas à le partager, à le mentionner. Aidez-nous à perdurer encore un peu. Allez, je vous dis à très vite, au plaisir de vous retrouver. Allez-vous, on referme les coulisses.